Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après les deux sermons du dimanche de la Passion et du dimanche des Rameaux, où j'ai cherché à vous éclairer sur le sens profond de la situation actuelle, nous reprenons nos sermons sur Jésus-Christ. Et saint Thomas nous pose la question, comment la passion a-t-elle produit ses effets? De quoi s'agit-il dans cette question? Dans la question suivante, il va nous montrer le cadeau merveilleux qu'est pour nous la passion. Il va nous en détailler les fruits. Mais il faut que nous soyons bien conscients de la valeur de ce cadeau, que nous soyons bien conscients à quel titre ces fruits nous sont donnés. Vous voyez, ce n'est pas le tout quand vous entrez dans une famille que de profiter de la bonne atmosphère de cette famille. Encore faut-il que vous sachiez si vous y entrez en fils, en gendre, en ami, en ennemi réconcilié, en voisin, que sais-je. Donc dans la présente question, saint Thomas va nous montrer à quel titre nous rentrons dans l'amitié de Dieu. Et il nous dit que la passion du Christ a causé notre salut par mode de mérite, de satisfaction, de sacrifice et de rachat. Il termine en nous disant qu'elle est l'instrument par laquelle la divinité de Jésus-Christ nous sauve. Jésus-Christ nous a sauvés par mode de mérite, c'est-à-dire qu'il nous communique ses propres mérites. Ses mérites deviennent nôtres. L'argument de saint Thomas est celui-ci. Nous sommes les membres du corps mystique dont Jésus-Christ est la tête. Il nous avait expliqué ça, vous vous le rappelez peut-être, lorsqu'il nous avait parlé de la grâce du Christ. Et la grâce du Christ, la grâce qui, de la divinité, inonde l'âme de Jésus-Christ, non seulement est tellement abondante, mais en plus, elle a été donnée pour cela, elle déborde. Elle déborde sur tous les hommes. Maintenant, il y a les hommes qui la reçoivent et ceux qui ne la reçoivent pas. Mais en principe, elle doit déborder sur tous les hommes. Il y a tout ce qu'il faut pour tous les sanctifier. Et ainsi, elle les unit à Jésus-Christ dans la charité pour former un corps qui est un corps spirituel, bien entendu, et non pas un corps matériel, charnel. C'est un corps spirituel qu'on appelle le corps mystique de notre Seigneur. Donc, en raison de cela, nous pouvons dire que tout ce qui est à Jésus-Christ est à nous, et que tous les mérites de Jésus-Christ sont nôtres. Autrement dit, il y a une fraternité établie par le Christ entre lui et nous. Bien sûr, ce sont les mérites du Christ qui établissent cette fraternité, c'est la volonté du Christ, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan du salut de la part de Dieu, cela est absolument gratuit, ces mérites nous sont donnés à titre totalement gratuit, mais une fois que cette miséricorde de Dieu a voulu notre salut, ce qui nous est communiqué comme des mérites, et donc les mérites du Christ deviennent nôtres. Voilà la réalité. Deuxièmement, La passion du Christ produit ses effets par mode de satisfaction. Vous avez dans le péché deux éléments. La faute et sa conséquence, la peine. La faute a causé du déplaisir à Dieu. Et par conséquent, pour rentrer dans l'amitié de Dieu, il faut quelque chose qui cause à Dieu plus de plaisir que le péché ne lui a causé de déplaisir. C'est l'offrande que Jésus-Christ fait de soi-même, de sa vie, de son corps, de sa mort sur la croix. Cette offrande est faite dans la charité. Tout le caractère satisfactoire, donc la satisfaction. Satisfaction, ça veut dire rendre à égalité, faire à égalité, en faire suffisamment. Eh bien, tout le caractère de réparation satisfactoire de la passion repose sur une double charité. Sur la charité du Christ envers son Père, qui évidemment donne à son Père plus de plaisir que le péché ne lui avait causé, le péché des hommes ne lui avait causé de déplaisir, et charité du Christ envers les hommes, puisque il paye à leur place comme on le fait entre deux amis. Cet aspect est important et saint Thomas y reviendra, mais on va plus loin que les mérites là, on va vraiment dans l'amitié et vous avez deux amis qui, parce que justement tout est commun entre eux, vont aller plus loin. Vous voyez, les mérites ont établi une communion et la conséquence de cette communion, c'est que le Christ répare pour nous. Le deuxième aspect du péché, c'est la peine qui est la conséquence. Et sous cet aspect, la passion opère par mode de rachat. C'est-à-dire qu'elle nous sort de la peine. Or, quelle était cette peine? Il y avait une double peine. Une peine qui était la conséquence de ce que nous nous sommes nous-mêmes livrés aux démons lorsque nous sommes écartés de Dieu. Tout pécheur, en s'écartant de Dieu, se livre aux démons. Et que comme un pacte avec le démon, même si ça n'est pas pleinement conscient que c'est avec le démon, malgré tout, ça l'est suffisamment. Deuxièmement, il était normal que Dieu, pour punir l'homme, le laisse sous cet esclavage du démon qui le fera souffrir, et surtout lorsque c'est en enfer. Eh bien, lorsque la passion rachète l'homme, c'est-à-dire qu'elle opère par mode de rachat. Cela veut dire qu'elle le sort des griffes du démon. Comment opère-t-elle cela? De la même manière que la satisfaction sépare l'offrande de son corps dans sa mort, que Jésus-Christ nous sauve ainsi. Saint Thomas nous dit que la passion a été comme une sorte de rançon par lequel Jésus-Christ a payé pour nous racheter. Nous n'avons jamais cessé d'appartenir à Dieu du fait que nous sommes des créatures, mais nous avions cessé d'appartenir à Dieu par la charité. La charité par le péché est détruite, et par conséquent, par le péché, le pécheur cesse d'appartenir à Dieu. Et par cette rançon, qui est un paiement surabondant, les âmes sont arrachées aux démons et rendues à Dieu. Une des conséquences de cela, c'est le sacrifice. Le sacrifice est défini par saint Augustin. Toute œuvre qui contribue à nous unir à Dieu dans la sainte société de la Trinité. Par rapport à ce bien suprême, grâce auquel nous pouvons être véritablement heureux. Vous avez l'aspect essentiel du sacrifice, comme le mot l'indique, faire du sacré, entrer dans le sacré, vivre dans le sacré. Est un sacrifice toute œuvre qui nous fait entrer dans la sainte société de la Trinité. Et vous avez un autre aspect qui est une conséquence, mais qu'il est important de souligner parce que on pense pas souvent au sacrifice sous cet aspect-là, c'est le bonheur. Dieu qui nous a créés pour être heureux ne se contente pas de nous donner un bonheur naturel, mais qui viendrait de toute façon d'une consécration à Dieu. Il nous donne un bonheur surnaturel qui est dans la consécration à la Sainte Trinité, à lui Dieu dans sa vie intime de la Sainte Trinité. Et le sacrifice de notre Seigneur est évidemment une grande œuvre d'union à Dieu, une œuvre de charité par laquelle il honore Dieu en étant pleinement dans la Sainte Société de Dieu. En même temps, à condition que nous lui soyons unis, nous entrons avec lui dans la Sainte Société de Dieu. Enfin, saint Thomas pose la question, la passion agit-elle par mode de déficience? Un mot un peu savant pour nous dire, est-ce bien à travers elle que le salut nous est appliqué? L'efficacité vient-elle d'elle? Il dit très simplement que la passion est un instrument et que c'est évidemment Dieu qui nous sauve le premier. La passion n'est qu'un instrument, mais cet instrument est un instrument réel. Et par conséquent, on peut dire qu'elle nous sauve. Il va y avoir plusieurs conséquences à cela. La première conséquence, c'est que puisque c'est Dieu qui nous sauve le premier et qu'il nous sauve par sa passion, nous pouvons être sauvés dans n'importe quelle situation. Et nous le verrons, je vous en ai déjà dit un petit mot, mais nous y reviendrons, même lorsque nous n'avons pas l'abondance des sacrements que nous souhaiterions. Parce que lorsque l'instrument n'est pas aussi disponible que nous l'aimerions, la cause principale, c'est-à-dire l'artisan qui manie l'instrument, lui, est toujours présent et toujours actif. Et saint Thomas nous dit que pour que la passion obtienne son efficacité, il faut que nous entrions en union avec Jésus-Christ par la foi et les sacrements de la foi. Et saint Thomas répète, la foi et les sacrements de la foi. Il ne dit pas la foi et les sacrements comme deux choses totalement différentes. Il dit la foi et les sacrements qui donnent la foi, qui nourrissent la foi. Le premier sacrement qui donne la foi, c'est le baptême. Et le baptême nous fait entrer dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons renouvelé les promesses de notre baptême le soir du samedi saint. Parce que par la passion, nous dit saint Paul, nous avons été ensevelis avec notre Seigneur. Et par sa résurrection, nous sommes ressuscités avec lui. Co-ensevelis et co-ressuscités. Et le baptême est le premier sacrement absolument indispensable, nous verrons qu'il y a le baptême de désir, qui nous donne la foi, qui nous fait vivre de la foi et qui nous applique la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême va s'achever dans les autres sacrements et surtout le plus grand de tous qui est l'Eucharistie. Mais saint Thomas, lorsqu'il étudiera l'Eucharistie, nous posera la question, est-elle nécessaire? Et il dit, il est pour se sauver nécessaire de vouloir la recevoir, mais il y en a beaucoup qui ont été sauvés sans l'avoir reçu, l'Eucharistie de fait. Voilà donc toutes les richesses. Et je terminerai en vous donnant quelques petites précisions. Saint Thomas nous dit que la passion agit par mode déficiente à cause de la divinité de Jésus-Christ. Dieu étant tout-puissant, recrée le lien qui avait été brisé. Elle agit par mode de mérite, par la volonté, c'est-à-dire par la charité du Christ. Enfin, grâce à la chair qui est offerte, elle agit par mode de satisfaction, parce que cette offrande est agréable à Dieu, cette offrande de la chair de Jésus-Christ. Elle agit par mode de sacrifice, parce que cette offrande agréable nous fait rentrer dans la société de Dieu. Elle agit par mode de rachat, parce qu'elle est le paiement d'une rançon. Les conséquences de cela, c'est que si nous voulons vraiment entrer dans le plan de Dieu, alors, puisque le mérite repose sur le fait que nous soyons membres du corps mystique, alors la conséquence, c'est que nous veillons à être des vrais membres du corps mystique, des membres vivants. Par rapport à Jésus-Christ et par rapport aux autres d'ailleurs, parce que les membres ne sont pas étrangers les uns aux autres, ils appartiennent à la tête en premier, mais ils ne sont évidemment pas étrangers les uns aux autres. Deuxième conséquence, par rapport à la satisfaction, puisque la satisfaction repose sur la charité, soyons unis à Jésus-Christ dans la charité. Troisième conséquence, puisque le sacrifice repose sur l'union à la Trinité et nous fait entrer dans la sainte société de Dieu, cultivons cette sainte société de Dieu. Troisième conséquence, puisque nous sommes rachetés, nous n'appartenons plus aux démons, nous avons retrouvé la liberté des enfants de Dieu, et cette liberté, nous l'exerçons en agissant, en faisant, en accomplissant ce qui plaît à Dieu. Dans tout cela, vous voyez, il y a une vie intérieure. Et ce que je voudrais vous faire remarquer pour terminer, c'est que l'aspect visible de la passion, qui est l'aspect charnel, Jésus-Christ offre sa chair, et il souffre et il meurt, repose sur la vie divine, la vie intérieure de Jésus-Christ. Et elle a pour but de nous communiquer la même vie intérieure que celle de Jésus-Christ. Nous communiquer l'amour de son Père, nous unir à son Père dans la vertu d'espérance, nous faire vivre par toutes, j'allais dire, les pores de notre chair, par tous les pores de notre vie, par toutes les vertus, nous faire vivre comme de dignes enfants de Dieu, à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un très beau programme, et vous voyez que les épreuves actuelles ne vont pas empêcher ce programme, au contraire, elles vont le stimuler. Demandez à la Sainte Vierge, qui a été la première à bénéficier des mérites et du salut de la Passion de Jésus-Christ, de vous aider à en profiter par l'union dans la foi et la prière et la charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.